Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Le pape François reçoit une invitation à se rendre au Sri Lanka. Il espère que le Seigneur lui accordera cette grâce. Autre voyage déjà à l'étude, celui-là, la Corée du Sud. Ce samedi, la Congrégation pour les causes des saints a promulgué plusieurs décrets approuvés par le pape, notamment celui qui reconnaît le martyre de 124 laïcs coréens. Il n'est pas impossible que le pape lui-même célèbre leur béatification lors d'un voyage sur la péninsule cet été. Nous revenons aussi dans ce magazine sur le chapitre général des Légionnaires du Christ qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de février à Rome. Enfin, nous retrouverons Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, sans oublier le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le Père Pascal Montavi. Le pape François a donc reçu ce samedi un groupe de pèlerins sri-lankais venus à Rome en pèlerinage à l'occasion du 75e anniversaire de la consécration de l'île à Marie. Le sanctuaire Notre-Dame de Lanka fut édifié à cette occasion sous l'impulsion de l'archevêque de Colombo de l'époque, Monseigneur Jean-Marie Masson. Dans son discours, le pape est revenu sur les souffrances du peuple sri-lankais. Il a invité à la réconciliation, une tâche toujours difficile, même si les armes se sont tues. Et il a remercié le cardinal Ranjit pour son invitation à visiter le Sri Lanka. J'accueille cette invitation et je crois que le Seigneur nous accordera cette grâce. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Le pape a rendu hommage à cette île sri-lankaise surnommée la perle du Pacifique, a-t-il rappelé, mais qui a tant souffert. On dit que la perle est formée des larmes de l'huître, a-t-il souligné avec poésie, mais tant de larmes ont hélas été versées ces dernières années à cause de la guerre civile qui a fait tant de victimes et causé tant de dégâts. Un conflit meurtrier qui opposa les tigres tamouls à la majorité singhalaise et qui a cessé en 2009, mais dont les plaies restent encore à vif. « Il n'est pas facile, je sais, de guérir les blessures et de collaborer avec l'adversaire d'hier », a expliqué le pape, « pour construire l'avenir, mais c'est l'unique chemin qui donne l'espérance d'un avenir de développement et de paix ». Le Saint-Père est revenu sur la présence de la Vierge qui protège le Sri Lanka. « Elle est toujours proche de vous. N'hésitez pas à faire appel à elle en toutes circonstances », a-t-il dit, « surtout quand se fait sentir le poids de la vie et de tous ses problèmes ». Le pape a également confié les Sri Lankais au Seigneur afin qu'il leur fasse le don de la paix et de la réconciliation. « Je vous assure que vous avez une place particulière dans ma prière », a assuré François.
Le pape François, en recevant en audience privée le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, a approuvé la promulgation de plusieurs décrets, parmi lesquels celui qui reconnaît le martyre de 124 laïcs coréens, Paolo Yung Jing Chung, et ses 123 compagnons martyrs, tués en haine de la foi en Corée entre 1791 et 1888. Les 124 martyrs coréens seront donc prochainement béatifiés, comme d'ailleurs un autre serviteur de Dieu dont le pape a reconnu le martyr, le père Francesco Zirano, de l'ordre des frères mineurs conventuels, né à Sassari en 1564, en Sardaigne donc, et tué lui aussi en haine de la foi à Alger en 1603. La béatification des martyrs coréens prend en tout cas un relief particulier, car le pape François pourrait présider en personne cette cérémonie en août prochain. Il n'y a pas encore de confirmation officielle, déclare l'agence missionnaire Asia News, mais le voyage du pape François en Corée du Sud est pratiquement certain. L'agenda du voyage, que la salle de presse du Saint-Siège dit à l'étude, prévoirait à Séoul les rencontres institutionnelles et dans le diocèse de Daejeon, les célébrations organisées pour la journée de la jeunesse asiatique, la béatification des martyrs coréens et une messe spéciale pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne. La visite du pape en Corée du Sud confirmerait la grande attention du pape pour l'église locale qui a subi au moins un siècle de persécution sur 230 années d'existence. On vient de parler de la journée de la jeunesse asiatique, venons-en à l'Afrique. Près de 25 000 jeunes pèlerins y participent, ce sont les JMJ de la jeunesse à Kaolack, une ville au centre-ouest du Sénégal, qui ont commencé vendredi et se termineront ce dimanche. Depuis 1996, date de la première JMJ organisée dans le pays, l'événement rassemble des jeunes du Sénégal et des pays voisins comme le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée-Bissau. Un caractère interterritorial plus que nécessaire dans cette sous-région aux nombreux défis. Et c'est pour mieux y répondre que les diocèses ont décidé d'unir leurs forces. Pour y arriver, ils ont focalisé leurs efforts dans la pastorale à destination des jeunes. Parmi eux, il y a Nathalie. Cette jeune femme de 28 ans est fière que ses journées se passent à Kaolack. Écoutons-la.
C'est très important pour moi parce que déjà, ça va nous permettre de faire notre visibilité en tant que chrétienne, surtout dans mon diocèse pour mieux nous ressourcer dans la parole de Dieu. Peut-être ça va aussi motiver les autres jeunes qui ne s'engagent jamais ou bien qui ne se sont pas engagés. Parce qu'en voyant les autres jeunes qui viennent d'ailleurs, ils sauront qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont prêts pour être au service de l'Église, témoins de leur foi.
Pour vous, c'est important qu'il y ait des journées qui soient vraiment dédiées aux jeunes?
C'est important parce qu'on veut montrer la jeunesse. Ils sont là. Ils sont l'avenir de demain. Demain, ils seront les prêtres, ils seront les évêques, ils seront les papes, ils seront les monseigneurs, ils seront les adultes de demain. Donc, je crois que c'est très important, surtout en Afrique.
Et qu'est-ce que vous attendez de ces JMJ?
Plus d'engagement, plus de motivation. Parce que quelles que soient les difficultés, je ne vais jamais reculer ni aller derrière. Donc, je vais toujours aller de l'avant.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Je vous le disais dans le sommaire de ce magazine, le chapitre général des Légionnaires du Christ se poursuit jusqu'à la fin du mois de février à Rome. Mais une étape importante a été communiquée mercredi avec l'élection d'un nouveau directeur général. Il s'agit du Mexicain Eduardo Robles Gil. Après 3 ans de tutelle du cardinal Velasio de Paolis, la congrégation retrouve donc un gouvernement autonome. Les pères du chapitre ont aussi publié une demande de pardon après les révélations sur la personnalité perverse de leur fondateur et le silence institutionnel qui a longtemps été la seule réponse aux critiques. Souhaitant retisser les liens qui avaient été rompus, ils disent aussi leur désir de rétablir l'amitié et le dialogue fraternel avec ceux qui ont quitté la communauté. Une érosion sensible des vocations s'était en effet produite depuis les scandales touchant le fondateur. Entre 2010 et 2013, environ 550 séminaristes avaient quitté l'ordre, soit un tiers des effectifs, et 84 prêtres avaient abandonné la Légion pour, dans la plupart des cas, se faire incardiner dans des diocèses. Le père Paul Habsburg, de nationalité allemande, est le responsable de la communauté des Légionnaires du Christ à Paris. Il participe à ce chapitre général et voit dans cette demande de pardon manifestée par la communauté l'occasion d'un renouveau spirituel. Il répond aux questions de Cyprien Viette.
Je pense que c'était un désir de nous tous de pouvoir communiquer d'une façon, je dirais presque définitive et claire, ce qu'on sent, ce qu'on pense, notre désir de mettre lumière dans l'histoire, notre désir de demander pardon à tout le monde, reconnaître que le passé est le passé. C'était un désir très grand et je veux dire pour moi-même personnellement, c'est un grand soulagement de voir, je pense, trouver la bonne façon de le communiquer.
Est-ce que vous considérez que vous avez été sauvé par le pape, ou par les papes, disons Benoît XVI et François, qui s'est inscrit dans la continuité? Est-ce que vous considérez que leur action, la nomination du cardinal de Paolis, a permis de sauver la congrégation, la Légion?
Franchement, je crois oui. Parce que l'Église avait tout le droit de dire, voilà, c'était trop, la blessure est trop forte. Et donc, le pape Benoît nous connaissait très très bien. Il nous connaît depuis les années début 80. Parce qu'il était à Rome et nous, on est à Rome, donc il y avait une grande amitié. Et donc, il savait que le noyau, le fond est très positif. Et pour lui-même, c'était une découverte qu'il ne croyait pas au début. Donc, je veux dire que lui-même, il s'est senti appelé de bouger tout pour récupérer ce que vient vraiment de Dieu et pour purifier notre communauté de ce que ne vient pas de Dieu. Donc, il était très, très bien informé et il voyait très clair qu'il y a un futur. Mais il savait qu'on ne peut pas sortir tout seul. Donc, dans ce sens-là, je pense. Mais en fait, ce n'était pas seulement lui et le pape François, mais c'était, je veux dire, toute l'Église. Parce que si en France, par exemple, il y a des prêtres de paroisse et aussi des évêques qui nous ont accueillis dans un moment, voilà, avec cette histoire. Donc là, c'est l'Église qui est vraiment venue pour être mère pour nous, franchement.
Dans le document, on parle d'un nombre non négligeable de départs. À combien il s'élève précisément?
Bon, alors, les prêtres, je pense qu'il y a plus ou moins entre 80 et 90, je pense que 85, quelque chose comme ça, depuis le 2010. Ça, sur 980 prêtres, je pense, 960 prêtres que nous sommes en total. Et heureusement, la grande majorité de ces 85 prêtres est restée prêtre. Mais voilà, est devenu diocésain. Il y a plus ou moins 900 séminaristes qui sont partis en 5 ans. Donc ça, c'est C'est très fort, ça. En même temps, il y a des autres qui sont entrés. Et en même temps, il y a, dans les dernières années, il y avait 2010, il y avait 60 prêtres ordonnés, l'année après 60, l'année après 50.
Donc là, vous redevenez une congrégation normale. Sur un plan canonique, là, vous revenez sous la tutelle de la congrégation pour les religieux, comme toute communauté,
exactement.
C'est ça?
Exactement, exactement. Donc, c'est temps de... Les dernières 3 ans et demi, c'était sous la direction directe, on peut dire, de Saint-Père, à travers son délégué, très, très proche, non? Il a fait ce chemin avec nous, un homme d'une grande expérience. Et après, avec une équipe, un grand expert sur la vie religieuse, franchement, on était extrêmement bien accompagnés pour, je dirais, rendre normal tout ce qui n'était pas encore mûr. On doit maintenant mettre ordre dans tout ça.
Et place à présent au Livre pour Dieu de sœur Catherine Aubin. Cette semaine, un Livre pour Dieu au titre provocateur, Laïcité de l'État et Liberté de l'Église. Son auteur, Emmanuel Tawil, revient sur les enjeux de la laïcité au sens acceptable du mot et de ses conséquences pour la liberté de l'Église. Le livre d'Emmanuel Tawil présente simplement la doctrine de l'Église dans le domaine de la laïcité depuis le XIXe siècle. Il souligne l'importance pour l'Église d'encourager la liberté dont elle a besoin pour exercer sa mission dans le monde.
Le Livre pour Dieu cette semaine a un titre provocateur. En effet, il s'agit de la laïcité de l'État et de la liberté de l'Église. Son auteur, Emmanuel Tawil, que nous avons interrogé, parle de sens acceptable et de sens inacceptable de la laïcité, d'où cette question. Y a-t-il une définition de la laïcité qui pourrait entraîner la dictature ?
Lorsque l'on parle de sens acceptable et de sens inacceptable de la laïcité, en réalité, on renvoie à la déclaration que les évêques français avaient faite en 1945, lorsqu'il a été question pour la première fois d'introduire dans la Constitution française le principe de laïcité. Le principe de laïcité en tant que norme constitutionnelle. Jusqu'au moment où le principe de laïcité est devenu une norme constitutionnelle, jusqu'à ce moment-là, ce n'était qu'une simple référence philosophique. À partir du moment où le principe de laïcité devenait une norme, il fallait lui donner un sens, et pas seulement quelque chose de vague.
Alors, quel sens on lui a donné ?
Alors, justement, les évêques français ont voulu mettre en garde, à ce moment-là, en 1945, en disant, attention, certains sens du mot laïcité sont absolument intenables et peuvent conduire à la dictature, notamment dans l'hypothèse où la laïcité serait entendue comme donnant la totalité du pouvoir à l'État, sans que personne ne puisse dire à l'État qu'il est en train d'aller trop loin, de porter atteinte à des éléments fondamentaux de morale, à des éléments fondamentaux d'éthique. Et c'est ça qu'ont voulu dire les évêques quand ils ont dit « Attention, il y a certains sens de la laïcité qui peuvent conduire à la dictature. » Mais ils ont aussi dit qu'il y avait des sens acceptables de la laïcité, notamment si la laïcité est entendue comme étant la liberté religieuse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on savait qu'il y avait donc des sens qui potentiellement entraient en conflit avec ce que l'Église considère comme étant essentiel pour elle et pour les autres, et qu'il y avait des sens qui, au contraire, étaient parfaitement compatibles. Et ce qui est intéressant, c'est que les juridictions françaises ont plutôt eu tendance à prendre en compte une définition qui est compatible avec la définition que l'Église considère comme acceptable.
Aujourd'hui encore, qu'attend l'Église d'un État non catholique en matière de liberté religieuse ?
Ce que l'Église catholique ne fait plus, c'est la distinction entre État catholique et État non catholique. Depuis le Concile Vatican II, l'Église n'a pas d'attente particulière de la part d'un État catholique comme pouvait l'être l'Espagne de Franco ou comme pouvait l'être le Royaume d'Italie et la République italienne à ses débuts. Non, l'Église catholique attend quelque chose de l'État. Elle attend que l'État assure la liberté religieuse à toutes les confessions religieuses. Et donc, qu'en assurant la liberté religieuse à toutes les confessions religieuses, l'État lui assure aussi, de facto, à elle, sa liberté.
Et c'est finalement le cœur de votre livre où vous répondez à cette question. Comment la liberté religieuse découle-t-elle de la nature même de l'Église et quelles en sont les conséquences ?
La liberté religieuse découle de la nature même de l'Église dans le sens où la liberté de l'Église découle de sa nature même. Ce n'est pas l'État qui peut porter atteinte à la structure de l'Église. Ce n'est pas l'État qui peut porter atteinte à la nature même de l'Église, qui est d'être avant tout une communauté de fidèles du Christ.
Emmanuel Tawil, ce livre, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaitez que nous comprenions de l'essence de votre livre, du cœur de votre livre ?
L'Église n'a pas besoin de la liberté pour avoir la liberté. L'Église a besoin de la liberté pour pouvoir porter son message, pour pouvoir porter son message, pour pouvoir porter la bonne nouvelle et pour pouvoir porter ce que le pape vient d'appeler la joie de l'Évangile.
Retrouvons à présent le père Pascal Montavi. Il nous propose son commentaire de l'évangile de ce dimanche. Évangile selon saint Matthieu 5, 13, 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire.
En ce cinquième dimanche du temps ordinaire, nous méditons sur un enseignement de Jésus adressé à ses disciples sur le mont qui sera par la suite appelé « mont des Béatitudes ». Jésus compare ceux qui le suivent au sel et à la lumière. Voyons en quoi ces deux comparaisons éclairent les exigences liées à la vie de disciples du Messie. Tout d'abord, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Dans l'Ancien Testament, le sel est l'élément qui purifie afin que la vie puisse continuer. À ce propos, un passage de la vie du prophète Élisée est particulièrement instructif. Des hommes viennent le voir car les eaux de la ville sont malsaines et par conséquent le pays stérile. Élisée jette du sel là où les eaux jaillissent et dit « Ainsi parle le Seigneur, j'assainis les eaux, il ne viendra plus de là ni mort ni stérilité. » La responsabilité qui incombe aux disciples est donc grande. Ils sont comme ce sel jeté dans les eaux pour qu'elles n'amènent plus la mort mais la vie. Dans nos sociétés, les baptisés sont ainsi appelés à être ceux qui rendent témoignage et préservent la vie sous toutes ses formes, de la naissance jusqu'à la fin des jours. La vie est un don de Dieu. Elle est une grâce qui mérite d'être vécue pleinement, même lorsque les épreuves et la souffrance semblent devenir trop grandes. Chaque jour que Dieu nous donne porte avec lui une bénédiction que nous sommes appelés à reconnaître et pour laquelle nous pouvons rendre grâce. Jésus dit ensuite « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Cette comparaison avec la lumière vient compléter celle du sel. Alors que le sel est un élément puissant, efficace, mais peu visible, l'image du lampadaire qui éclaire toute la maison montre que les disciples de Jésus ne doivent pas agir de manière cachée. Bien sûr, peu après, Jésus invite à prier, à faire l'aumône et à jeûner dans le secret. Mais comme toujours dans la Bible, il faut savoir mettre en parallèle deux passages apparemment contradictoires pour saisir toute la portée du paradoxe. Il ne s'agit donc pas de veiller fiévreusement à ce que l'expression de notre foi demeure cachée aux hommes. Il s'agit avant tout d'agir sous le regard de Dieu. Peu importe que notre prière, nos actions soient vues ou non par les hommes. Jésus dit lui-même « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Parfois donc, ce que nous faisons au nom du Seigneur sera visible par tous, afin de susciter et affermir la foi des autres. C'est le sens du témoignage. Mais si ce que nous faisons demeure caché aux hommes, réjouissons-nous aussi. En ce dimanche, prions pour que le sel que nous sommes ne se dénature pas. Prions aussi pour que la lumière que nous recevons du Seigneur ne demeure pas cachée sous le boisseau. À chacun, le Seigneur a donné une mission, demandant-lui la force d'y demeurer fidèle.
Ainsi prend fin ce magazine. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.